Chapitre 10. Catilina était allée rejoindre dans les Apennins son lieutenant Malus. Il y avait là deux légions, 10 à 12 000 hommes. Il attendit un mois. Chaque matin, il espérait apprendre la nouvelle que le complot avait éclaté à Rome. La nouvelle qui lui arriva fut que Cicéron avait fait étrangler Lentulus et Cethégus, ses amis, ainsi que les principaux chefs du complot. Étranglé, s'écria-t-il, n'étaient-ils donc pas citoyens romains? Et la loi Sempronia ne leur garantissait-elle pas la vie sauve? Sans doute, mais voici l'argument dont Cicéron s'était servi. La loi Sempronia protège, il est vrai, la vie des citoyens. Seulement, l'ennemi de la patrie n'est pas citoyen. L'argument était bien un peu subtil, mais on n'est pas avocat pour rien. Les armées du Sénat approchaient. Catilina vit qu'il ne lui restait plus qu'à mourir. Il résolut de mourir bravement. Il descendit de ses montagnes et rencontra les conservateurs, comme on dirait de nos jours, aux environs de Pistoie. Le combat fut terrible, la lutte acharnée. Catilina combattait, non pas pour vaincre, mais pour bien mourir. Ayant mal vécu, il mourut bien. On le retrouva en avant de tous les siens, au milieu des cadavres des soldats romains tués par lui. Chacun de ces hommes était tombé à la place où il avait combattu. Des voleurs, des meurtriers et des incendiaires meurent-ils ainsi? Je crois que Napoléon à Sainte-Hélène avait raison et qu'il y a sous tout cela quelque chose que nous ignorons, ou plutôt qui nous a été mal dit et par conséquent laissé à deviner. Voyez le manifeste des révoltés que nous transmet Salluste. Peut-être jette-t-il quelques jours sur la question. Il est adressé par le chef des révoltés au général du Sénat. Le général du Sénat, c'est le Cavaignac de l'époque. Impérator, nous attestons les dieux et les hommes que, si nous avons pris les armes, ce n'est point pour mettre en danger la patrie ou menacer nos concitoyens. Nous ne voulons que sauvegarder nos personnes. Misérables et ruinés que nous sommes, la rapacité et les violences de nos créanciers nous ont enlevé à presque tous la patrie, à tous la réputation et la fortune. On nous dénie jusqu'au bénéfice des anciennes lois, on ne nous permet point d'abandonner nos biens pour garder notre liberté. Tant est grande la dureté de l'usurier et du prêteur. Souvent, l'ancien Sénat eut pitié du peuple et, par ses décrets, soulagea la misère publique. De notre temps même, on a libéré aussi les patrimoines grevés à l'excès et de la vie de tous les gens de bien, il a été permis de payer en cuivre ce qu'on devait en argent. Souvent aussi, le peuple, poussé par des désirs ambitieux ou provoqué par les injures des magistrats, s'est séparé du Sénat. Mais quant à nous, nous ne demandons ni la puissance ni la fortune, ces grandes causes des luttes entre les hommes. Non, nous demandons seulement la liberté qu'un citoyen ne consent à perdre qu'avec la vie. Nous te supplions donc, toi et le Sénat, d'avoir égard à la misère de nos concitoyens. Rendez-nous la garantie de la loi que le prêteur nous refuse. Ne nous mettez pas dans la nécessité de préférer la mort à la vie que nous menons, car notre mort ne serait point sans vengeance. Pesez ce manifeste, philosophe de tous les temps. Il a son poids dans la balance de l'histoire. Ne ressemble-t-il pas beaucoup à cette devise des malheureux canuts de Lyon ? Vivre en travaillant ou mourir en combattant? Nous vous le disions bien tout à l'heure que la conspiration de Catilina n'était point une conspiration. Et voilà pourquoi le danger, quoi qu'en dise Dion, fut réel, sérieux, immense. Si réel, si sérieux, si immense qu'il fit de Cicéron un héros d'audace et d'illégalité. Il faut que Cicéron ait eu bien peur pour avoir été si brave ce jour-là. Quand Cicéron peut fuir, est-ce qu'il ne fuit pas? Dans les meutes soulevées contre lui, 7 ou 8 ans plus tard, par Claudius, est-ce qu'il ne fuit pas? Et Claudius, cependant, n'est pas un homme de la taille de Catilina. De retour de Thessalonique, Cicéron raconte qu'il y a collision sur le forum. On s'injurie, on se crache à la figure. Les Claudiens commencent à cracher sur nous. Claudiani nostros consputare seperont. Nous perdons patience, ajoute Cicéron. Il y avait de quoi. Les nôtres les chargent et les mettent en fuite. Claudius est précipité de la tribune. Moi, je m'esquive de crainte d'accident. Ac nos quoque tom fugimus, nequid in turba. Je ne le lui fais pas dire, c'est bien lui qui le dit, qui le raconte, qui l'écrit à son frère Quintus dans sa lettre du 15 février. D'ailleurs, si vous doutez, lisez le discours de Caton. Celui-là n'est pas un poltron, et cependant il a peur, grand peur. Il a peur surtout, et il le dit, il a peur, et les autres doivent avoir peur, parce que César est tranquille. César est tranquille parce que, Catilina vainqueur, il a donné assez de gages à la démocratie pour avoir sa part du gâteau. César est tranquille parce que, Catilina vaincu, il n'y a pas assez de preuves contre lui pour qu'on le mette en accusation. D'ailleurs, qui oserait le mettre en accusation? Caton en a bonne envie et cependant, il recule. Ce fut pendant cette séance si orageuse dans laquelle Caton et César parlèrent, Caton pour la sévérité, César pour la clémence, que l'on apporta un billet à César. Caton crut que c'était une missive politique, l'arracha des mains du messager et la lut. C'était un poulet de sa sœur Servilly à César. Il le lui jeta au visage. « Tiens, ivrogne » dit-il. César le ramassa, le lut et ne répondit rien. En effet, la situation était grave et n'avait pas besoin d'être compliquée d'une querelle particulière. Mais si l'on osait accuser publiquement César, on n'eût pas été fâché qu'un accident débarrassât de lui les honnêtes gens. Sur les marches du Sénat, et au moment où il en sortait, il fut assailli par une foule de chevaliers, de fils de banquiers, d'agioteurs, d'usuriers, de publicains, qui voulaient absolument le tuer. L'un d'eux, Claudius Pulcher, celui qui s'était fait battre par les gladiateurs, lui mit son épée à la gorge, n'attendant qu'un signe de Cicéron pour le tuer. Cicéron lui fit signe d'épargner César, et Claudius remit son épée au fourreau. Comment, ce même Claudius, qui, plus tard, âme damnée de César, sera l'amant de Pompeia et voudra tuer Cicéron, ce même Claudius est l'ami de Cicéron et veut tuer César? Eh mon Dieu, oui, voilà comment les choses se passent dans la vie. Cela vous paraît incompréhensible. Nous vous expliquerons cela, soyez tranquille, cher lecteur. Ce ne sera peut-être pas très moral, mais ce sera clair. L'homme heureux, l'homme fier, l'homme grand de 100 coudées dans toute cette affaire de Catilina, c'est Cicéron. Il y avait beaucoup de M. Dupin dans Cicéron, quoiqu'il n'y ait pas beaucoup de Cicéron dans M. Dupin. Avez-vous vu M. Dupin le lendemain du jour de l'avènement au trône du roi Louis-Philippe? S'il eût fait des vers latins, il eût fait ceux de Cicéron. S'il eût fait des vers français, il les eût traduits. Vous connaissez les vers de Cicéron, n'est-ce pas? Ô fortunatam natam, me consulé Romam. Ô heureuse Rome qui est née sous mon consulat. Eh bien, 8 jours après, Cicéron défendait Murena, coupable de brigue, lui qui avait demandé pour les coupables de brigue un surcroît de punition de 10 ans d'exil. Puis il défendit Sylla, qui était le complice de Catilina. Il le défendit, lui, Cicéron, qui avait fait étrangler les autres complices. Un instant, nous l'avons dit, il fut roi à Rome. Pompée était absent, César effacé, Crassus muet. « C'est le 3e roi étranger que nous avons, » disaient les Romains. Les 2 autres étaient Tatius et Numa. Tatius et Numa étaient de Cure, Cicéron était d'Arpinum. Tous 3 étaient donc, en effet, étrangers à Rome.